Bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs et auditrices de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud, pour notre émission mensuelle sur le potager dans la vallée de l'Hérault, émission animée par le collectif des semeurs du Lozévois-Larzac. J'ai le plaisir d'accueillir Sébastien Pioche, maraîcher à Agnane, qui va donc nous parler de son expérience professionnelle et des différents travaux pour le jardinier pendant juin. Vous êtes sur Radio Pays d'Hérault et RPH Sud. Vous pouvez écouter nos émissions sur les fréquences 89, 96.7 et 102.9 MHz ou en podcast à l'adresse rphfm.org. Cette série d'émissions est diffusée à un rythme mensuel en début de mois. Nous y décrivons la pratique du potager dans la vallée de l'Hérault avec les membres des semeurs du Lozévois-Larzac et d'autres maraîchers de la vallée de l'Hérault, comme Sébastien Pioche qui est avec nous en ce moment. Jardin en juin, nous allons parler. Abeille de mai, Val de l'Or, en juin, s'échancent encore. C'était pour insister sur le rôle des abeilles dans la production agricole. Bon, maintenant, je vais passer la parole à Sébastien, qui va d'abord se présenter et nous présenter rapidement son exploitation.
Mais bonjour à tous les auditeurs et auditrices. Sébastien Pioche, maraîcher sur la commune d'Agnane depuis bientôt 15 années, en agriculture bio et un circuit de commercialisation, vente directe sur les marchés d'Agnane et de Grabel. Voilà, pour faire un peu l'état des lieux de la situation. Et ensuite, pour venir plus vif, plus rapidement dans le vif du sujet, l'agenda du jardinier du mois de juin, il n'y a pas de repos pour les jardiniers, comme on dit. Il y a quand même du repos, mais au mois de juin, il y a encore pas mal de choses à faire. Ça dépend à quel rythme on veut jardiner, quoi. Voilà.
Donc si tu peux dans un premier temps dire un peu ce que tu vends au mois de juin et ce qu'on trouve sur les marchés, quoi.
Alors ce qu'on trouve sur les marchés au mois de juin, nous par exemple notre production elle est ciblée quand même sur le mois de juin sur les légumes d'été précoces, parce que bon, c'est des légumes qui sont assez demandés et attendus par la plupart des consommateurs. Donc on produit des tomates. Dès le mois de juin, on a des tomates, on a des courgettes, on a des aubergines, les premiers poivrons aussi. Le melon, c'est un peu... Ouais, les premiers melons, mais c'est plutôt sur le mi-juin, fin juin, les premiers melons pastèques. Voilà, parce que c'est des légumes qui sont un peu plus longs à pousser, quoi. Et après, ça, c'est pour vraiment la production un peu de primeur. Sinon, après, la production de primeur, j'ai pas précisé, pardon, sous serre. Voilà.
Est-ce que tu peux un peu quand même détailler cette production sous serre là? C'est-à-dire pourquoi on utilise la serre et quelles sont les contraintes que ça impose après?
Alors, donc, bon, les contraintes d'une serre, c'est quand même que c'est une infrastructure qui est quand même assez coûteuse. Il y a de l'entretien parce que le vent peut abîmer un peu la structure dans certaines conditions. Il faut changer les bâches. Voilà. Mais il y a quand même des avantages assez considérables, c'est-à-dire qu'on se protège du froid et au lieu de planter les premiers légumes qui craignent les gelées au mois de mai en attendant souvent la fin des saisons de glace, c'est-à-dire entre le 12 et le 14 mai là, en plein champ, on peut déjà commencer à planter des légumes sous serre dans le mois de mars ou début avril selon les conditions climatiques et où on se trouve aussi dans le département, parce que si on est dans la vallée de l'Hérault ou si on est dans les Hauts-Cantons ou dans le Lozévois, on n'a pas tout à fait les mêmes climats toujours, quoi. Voilà. Mais en tout cas, la serre va avoir l'avantage de nous protéger du froid et de nous faire pousser certaines cultures gélives, des légumes donc, qui craignent le gel, de pouvoir les faire venir un peu plus tôt.
Et pour l'irrigation, donc, est-ce qu'on consomme moins d'eau, plus d'eau? Il faut arroser tout le temps? Est-ce qu'il n'y a pas plus de maladies, moins de maladies?
Non, sous serre, pas forcément, parce que... On a une plus grosse température, évidemment, donc le légume, il va pousser un peu plus vite, donc il faut lui apporter de l'eau, mais ça reste raisonnable, parce que souvent, en Saussure, on conduit le végétal aussi. Nous, en tout cas, en professionnel, on va conduire le végétal de façon très contrainte, on va le débourgeonner, tout ça, on va pas laisser courir, par exemple, les tomates dans tous les sens, parce que sinon, on va s'épuiser et aller chercher les fruits d'un côté de l'autre, et ça va vite être le bazar dans la serre, quoi. Ça va prendre des proportions assez énormes au niveau de la végétation, donc on va un peu conduire le végétal pour avoir quelque chose de contrôlé en termes de pousse. Donc, en termes de consommation, c'est pas si énorme que ça, et d'autant plus qu'on a quand même... L'humidité peut être retenue sous la serre, souvent. Donc, si on fait des excès d'arrosage, on va avoir des problèmes de pourriture, des choses comme ça. Donc, on arrose, mais modérément, quoi. Voilà. Nous, on a l'habitude souvent d'aller voir un peu vraiment l'état du sol, comment il est avant d'arroser, et on fait ça que si c'est nécessaire, quoi.
D'accord. Okay. Bon, et alors, est-ce qu'on fait encore des plantations, enfin des semis et des plantations au mois de juin ? En maraîchage, voilà.
Oui, en maraîchage, au mois de juin, c'est pareil, selon où on se situe, on peut semer encore des radis, par exemple, pour faire des radis bottes. Ça dépend de... Là, c'est un peu qui tout double, parce que selon le climat, ils vont être plus ou moins forts, par exemple. Mais on peut aussi... semer des carottes, qui vont faire de la carotte primeur pour l'automne. Ou de la carotte d'hiver même, en juin. Et puis, ceux qui font leurs plants de choux, par exemple, vont les semer au mois de juin pour pouvoir avoir les choux prêts à repiquer courant juillet et faire des choux précoces pour le début de l'automne. Voilà. Après, la culture de choux peut s'échelonner. Donc, si on sème... Par exemple, en juin, et pour repiquer en juillet, on va avoir une production plutôt précoce. Donc on peut ressemer souvent en juillet pour replanter en août et pour avoir une production plus en hiver, un peu plus décalée, quoi. Donc ça, on peut échelonner les choses. Ouais. Ensuite, en semis, celui qui fait beaucoup de semis, il peut semer une autre volée de courgettes en juin, il peut semer une autre volée de melons, une autre volée de tomates. Alors les tomates en juin, peut-être pas les semer, peut-être plutôt directement avoir un plant et le repiquer pour faire une culture de tomates un peu plus tardive.
D'accord.
Ça se fait, ça, de plus en plus, et même nous, en maraîchage professionnel, donc on va souvent encore planter des plants de courgettes, de melons, de pastèques et de tomates dès le mois de en juin, dès le début juin, pour avoir une production plutôt sur la fin de l'été, le début de l'automne.
D'accord.
Alors que les plantes qu'on a plantées début mai sont souvent épuisées avec les chaleurs et vont s'épuiser sur la fin de l'été, 15 août, fin août, elles sont un peu épuisées. Et une plante qu'on aura plantée de tomates, par exemple, début juin, va commencer à donner des fruits début septembre.
Mais alors, ça implique de faire un deuxième semis.
Ah, ça implique de faire des deuxièmes semis ou d'acheter des plants quelque part en pépinière, sur un marché ou autre, et d'avoir un petit peu de place au jardin spécialement dédié à ça, quoi. Ah, à une culture un peu plus tardive, quoi.
Voilà, mais on peut... Est-ce qu'on peut prolonger la culture de tomates ? Non ? Jusqu'aux premières gelées ?
Oui, bien sûr, oui. Ouais. Alors, soit les tomates que vous avez plantées début mai, après les seins de glace, vous allez espérer faire toute la saison avec, et au risque qu'il y ait des problèmes à cause des fortes températures d'été ou des maladies avec les premiers orages du mois de septembre. Ouais. Mais bon, elles peuvent tenir toute la saison. Mais des fois, on remarque qu'on a des problèmes et qu'à la fin de l'été, on commence à avoir des plantes qui sont épuisées ou qui sont malades. Et donc, on a... souvent peu de tomates en arrière-saison. Alors qu'en replantant un pied de tomate jeune jusqu'entre le 1er et le 15 juin, on va dire, là, on va avoir un plant qui va passer l'été en végétation et qui va commencer à fructifier dès le mois de septembre. Et donc là, septembre-octobre, avant les premières gelées, on va avoir une petite production de tomates d'arrière-saison, quoi. Donc c'est des fois intéressant.
D'accord.
Nous, en professionnel, on fonctionne pas mal comme ça, avec la tomate, avec le melon, on fait même de la courgette comme ça.
Ouais.
Voilà, ça permet d'étaler un peu l'été, quoi.
Ouais,
de faire durer.
Parce que le cycle de la courgette est assez court ou...
Le cycle de la courgette est assez court. Ouais. Les courgettes, en professionnel, nous, on en plante une fois par mois. Comme ça, on a des rotations avec des plants qui sont toujours...
Ouais.
Alors ça aussi, c'est le... disons que c'est aussi le... le cheminement d'une agriculture biologique, des fois, c'est plutôt que de faire un traitement sur une plante, une graine de courgette, ça coûte pas très cher, c'est facile à semer. Donc on resème des courgettes tous les mois. Ça fait qu'on a des plantes toujours en forme, toujours qui ont pas de maladies, etc. Et on a une production qui est toujours faite sur des plantes assez jeunes. Et donc, il n'y a pas besoin de sanitairement d'intervenir avec des produits même autorisés en bio, hein, sans problème. Mais voilà, ça nous permet d'enlever cette contrainte-là. C'est souvent moins coûteux de replanter un plant de courgette que de devoir mettre du soufre pour empêcher de l'oïdium pendant plusieurs semaines, quoi.
D'accord, ok, c'est pour ça. Bon. Ça demande quand même, si vous semez les courgettes une fois par mois, ça demande. Faut bien s'organiser. Hein.
Il faut s'organiser, il faut avoir de la place. Voilà, nous, en professionnel, on est organisé pour ça. Après, dans un potager amateur, c'est vrai qu'il faut quand même, si on veut organiser les choses un peu de cette manière-là, il faut avoir suffisamment de place et puis penser en amont à comment on va dérouler son potager de l'année pour laisser de la place pour les cultures qui vont s'échelonner au fur et à mesure des mois, quoi.
Oui, c'est ce qu'on avait dit avec Mariano la dernière fois.
Et oui.
Donc là, faut répéter la même chose. Heureusement.
C'est quand même. Si on répète la même chose, c'est que c'est intéressant parce que ça veut dire ce que ça veut dire, c'est que ce qui est important, c'est d'anticiper beaucoup dans notre métier. Ouais. Et aujourd'hui, on est début mai, donc non.
Début mai au moment de l'enregistrement.
Au moment de l'enregistrement, pardon. Donc, à l'heure où on parle au moment de l'enregistrement, on va tous planter nos tomates en plein champ, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'il faut penser à nos plants, quoi. Faut s'organiser en amont, soit les avoir semés, les avoir repiqués, soit etc. Quoi, voilà.
Donc, au mois de juillet, il y a quand même des travaux de préparation de sol.
Au mois de...
Juin.
Au mois de juin, oui. Au mois de juin, oui. Alors, en plus de tout ce qu'on a dit, qu'on pouvait semer, qu'on pouvait planter si on avait déjà du plan de prêt, ou d'acheter du plan pour planter des choses dès le début juin. Et ce qui est pas mal aussi, c'est que si on veut avoir des cultures d'automne, en fait, c'est au mois de juin qu'il faut préparer les sols pour qu'ils soient prêts dès la mi-juillet, fin juillet, et même dès le 15 août et fin août, à accueillir des plantations d'automne. Donc, si on prépare notre sol début mi-juin, dans le courant juin, on va dire, on va faucher, on va enfouir les matières organiques, les herbes, etc., qu'il va y avoir sur le sol, on va labourer, on va faire tout ce qu'on veut, ou on va bêcher, etc. Et là, on va laisser reposer notre sol, et on va le préparer, on va fumer avec des fumiers ou avec des engrais différents, et on va laisser ça jusqu'à mi-juillet, pardon, mi-juillet, fin juillet, et là, on va pouvoir commencer à implanter nos cultures d'automne et d'hiver, c'est-à-dire des choux, certaines salade d'hiver, on va pouvoir commencer à préparer pour semer des radis d'hiver, des navets, etc.
D'accord. Ok. Ah oui, donc c'est...
Donc préparer le sol, ça prend quand même du temps et ça nécessite, voilà, si on met du fumier, il vaut mieux l'incorporer plusieurs semaines avant pour qu'il ait le temps de se disperser dans le sol, etc. Ouais. Quoi.
Donc pour les cultures d'automne et pour les cultures d'hiver aussi, alors.
Et pour les cultures d'hiver, oui. Nous, on fonctionne comme ça, on prépare beaucoup de choses au mois de juin. On prépare les sols au mois de juin, pardon, plutôt qu'ils soient prêts pour le mois de juillet, pour le mois d'août et pour le mois de septembre. D'accord. Les plantations qui vont s'échelonner pour l'automne et l'hiver.
D'accord, jusqu'en septembre. Les problèmes de maladies là, et d'insectes, là, qu'est-ce que vous avez là, au mois de juin là, comme problème de maladies et d'insectes? Oui, il n'y en a pas en bio là.
Bah, ce mois de juin, on ne sait pas s'il va être pluvieux ou pas, puisqu'on est, encore trop de début juin, quoi. Mais si jamais on a des orages, on va avoir des problèmes, parce que souvent on va avoir des températures quand même assez élevées en juin. Et donc là, dès qu'on a des temps humides, du vent marin ou des petits orages, on va avoir des problèmes de mildiou dans les tomates principalement. Ça, c'est les plus gros risques de maladie.
Ah bon, mildiou.
Mildiou sur tomates. En extérieur, ouais.
Et on peut faire quelque chose pour
Et on peut faire, oui, on peut faire classiquement une bouillie bordelaise.
D'accord.
Après, on peut aussi s'occuper de ça avec des purins, différents purins ou décoctions de plantes. Et il existe aussi des...
Les purins, c'est des décoctions de plantes.
Alors, il y a des purins, des macérations, quoi. Ouais. Plutôt purin d'ortie, par exemple. Purin d'ortie qu'on soude, purin de prêle. Et après, on a des décoctions de certaines plantes. J'ai pas tout en tête, mais qui sont là plutôt pour renforcer le végétal, on va dire, plutôt que de lutter vraiment contre le champignon.
D'accord.
Si on veut vraiment avoir une action curative, souvent, on va passer quand même par une bouillie bordelaise.
D'accord, ok. Donc la bouillie bordelaise, donc je rappelle, la bouillie bordelaise, c'est du cuivre. Hein.
C'est ça, du sulfate de cuivre.
Du sulfate de cuivre.
Qu'il faut utiliser quand même avec parcimonie, quoi.
C'est autorisé en agriculture biologique.
Oui, c'est autorisé en agriculture biologique, mais à des doses bien précises,
ouais,
et contrôlées.
Ouais.
Voilà, on peut pas mettre les doses, on peut pas mettre n'importe quelle dose.
Ouais.
Ouais, ouais.
Ok. Et alors, il y a une chose dont on n'a pas beaucoup parlé jusqu'à présent, c'est les tailles des plantes, là. Donc, sur la tomate, on fait la taille, comment vous appelez ça?
Oui, du débourgeonnage.
Ouais. Débourgeonnage.
Oui, sur la tomate, effectivement, c'est un peu la plante la plus... J'allais dire compliqué à conduire, mais je ne sais pas si compliqué c'est le bon terme, mais disons qu'il y a quand même un suivi avec la tomate un peu plus important qu'avec une courgette ou avec un poivron ou une aubergine, quoi. Souvent, les poivrons, les aubergines sont des plantes qui ramifient peu, et on va en général laisser ramifier tout ça parce que ça va faire une production en abondance et ça va être assez bien. Mais la tomate, si on laisse ramifier, ça va faire une très très grosse végétation, au détriment souvent de plus petits fruits. Voilà. Et puis surtout, ça va être complexe selon la taille de son jardin. Si on a une tomate qui envahit la moitié du jardin, c'est un peu compliqué, quoi. Donc souvent on les débourgeonne, ouais. Donc on casse à l'entre-nœud, ce qu'on appelle, c'est entre le tronc principal et la feuille, il va naître un petit bourgeon, un petit départ de plante. À chaque fois qu'il y a une base de feuille contre le tronc, il va naître ce qu'on appelle un gourmand, et là il faut le casser pour conduire la plante sur son tronc principal uniquement, quoi.
Et on le fait jusqu'au bout, là, jusqu'à...
Non, en général, quand on commence à avoir les premiers bouquets sur le bas de la plante, les 2-3 premiers bouquets qui commencent à demander quand même une certaine énergie à la plante, souvent il y a moins de production de gourmands, même la plante en général pousse moins vite et moins vigoureuse. Elle a souvent tendance à même... On s'aperçoit que quand la plante fait 1m50, 1m80 de haut et qu'elle apporte 3-4 bouquets sur sa partie basse, la partie de tête est souvent beaucoup plus fine, quoi, parce que la plante est souvent...
Mais alors on continue les gourmandages en haut?
Non, après, bah en général,
après les 4-5 premiers bouquets.
Ça pousse... Alors après les 4-5 bouquets, oui, il va y avoir encore des gourmands, mais à partir d'une certaine hauteur, souvent au-delà de 1m50, on voit beaucoup moins de gourmands par rapport au fait que la plante a moins de vigueur, parce qu'elle nourrit les fruits plutôt que de nourrir de la pousse végétale, quoi.
D'accord, moins de gourmands après. Mais oui, parce que dans les grandes cultures industrielles sous serre, la tige est couchée par terre.
Oui, alors là, c'est encore autre chose. L'avantage de la tomate, c'est que c'est une liane. Donc, on peut conduire cette culture-là pendant plusieurs mois. Mmh. Et pendant plusieurs mois, on peut conduire un seul pied de tomate qui va faire des gourmands et des feuilles et des bouquets de fleurs. Mais en mesure, on va sélectionner toujours un pied principal avec des bouquets. Et voilà. Donc là, oui, en culture industrielle, on a des plants de tomates qui peuvent dépasser les 20 mètres de long, sans problème, quoi.
Oui, là, ouais. On prend du temps. Hein. Je voulais parler du melon, hein, les pincements.
D'accord.
Du melon, et puis après, on va conclure.
Alors, le pincement du melon, alors nous, on ne le fait pas trop, ça, parce que... On s'est aperçu que c'était pas non plus... disons que bon, là où on est dans des bonnes terres, donc et puis bien soigné, donc le melon il fait une fructification assez longue, assez importante, et ça nous va bien. Mais si on est dans des endroits un peu plus maigres, on peut pincer éventuellement les melons, donc il faut souvent ça se pince entre la 6e et la 8e feuille, on va dépointer le melon, son tronc principal, quoi. On va couper l'apex à chaque feuille va partir une ramification. Et là, on va laisser ça. Et les melons vont se former sur une partie de plante plus déterminée, quoi, plus restreinte. Ça évite d'avoir des melons, des plantes très exubérantes avec des petits melons, quoi.
D'accord.
Ça permet de concentrer un peu l'énergie sur une plante plus petite, ouais. Et souvent de faire un calibre de melon un peu plus intéressant.
Bon, vous avez un petit mot pour la fin, là? Bon.
Ben, un petit mot pour la fin. Courage à tous les jardiniers, quoi, parce que c'est quand même du boulot. Et on
vous retrouve sur les marchés à Grabel, c'est quel jour?
Alors, Grabel, c'est le samedi matin. Et à Nian, c'est le jeudi matin.
Et c'est vous qui tenez le stand?
Avec mes collègues, je ne suis pas tout seul, on est quatre à travailler dans l'entreprise. Donc on fait un planning alterné, ce qui nous permet de, malgré que le boulot d'agriculteur soit prenant, le fait d'être nombreux, ça nous permet d'avoir des week-ends de repos et d'avoir quand même du bon temps, quoi.
Voilà, merci. Voilà. Bon, ici se termine cette 19e émission de l'agenda du jardinier. Je crois que c'est la 20e en fait, animé par les semeurs du Lodévois-Larzac, promoteurs des semences paysannes et de l'agriculture biologique. Nous remercions encore Sébastien d'être venu nous parler de son métier et que vous pouvez retrouver sur les marchés, comme il a dit Daniane et Grabel. Nous remercions aussi toute l'équipe de Radio Pays d'Hérault et RPH Sud de nous permettre de nous exprimer, Maëva, Samuel et Axel.
Merci RPH et à une prochaine.